son expérience de missionnaire, ça va de soi. Je veux dire que il a quand même fondé la Société des Fers Blancs. Il a lui-même ouvert en Algérie une porte, comme il dit, sur un continent. Et donc, à partir de là, il a pu apprécier, avec une expansion de sa société, donc les Fers Blancs, comment les choses se réglaient, notamment la traite des Noirs, et notamment leur type de vie, aussi bien alimentaire que sociale, tribale, ce que vous voulez. Et qu'il pensait quand même que la clé de la façon dont l'Occident pouvait apporter quelque chose à l'Afrique, c'est précisément de lutter contre l'esclavage, l'esclavagisme en tout cas. C'était le premier écho que l'on a, je dirais, du souci que prend l'Église de la condition esclavagiste dans le monde.
Un combat qui a eu des résultats ?
Un combat qui a eu beaucoup de résultats, oui, parce que je dirais que c'est là que se trouve l'écho de ce que l'on attendait depuis 1848 et avant. Je veux dire que la mission de l'Église, c'est peut-être de sa part une faute, c'est d'avoir ignoré du XVIe au XIXe siècle la condition esclavagiste. C'est-à-dire que d'en avoir vu les bénéfices, si je veux dire, commerciaux pour l'Occident chrétien, plutôt que d'avoir considéré qu'il fallait répondre à ce qui était attendu, en fait, une mission évangélique. Mais semble dire que c'est presque une façon de refaire l'histoire à l'envers.
Alors la Vigerie s'est consacrée à l'évangélisation de l'Afrique, mais sans la dissocier d'un souci humanitaire. Est-ce que c'est une exception pour l'époque ?
C'est au début une exception, oui. Il comprend très bien, c'est son intelligence entre autres, qu'on ne peut pas évangéliser l'Afrique, et notamment donc après le Maghreb, l'Afrique noire, sans toucher à la condition des femmes. Et donc, c'est à ce moment-là que les religieux, ce sera d'ailleurs un exemple qui sera suivi partout ailleurs, sont indispensables. C'est le trait d'union qui fait que sa société aura une très grande dynamique et qu'il est un peu à part des autres. Et donc, ça a des résultats, indiscutablement, parce que les Pères Blancs sont considérés, enfin maintenant ils sont moins nombreux, mais ça a été une expansion remarquable à l'époque. Les Pères Blancs, vous savez, avec à Burnous, une Gandoura et le Chèche au début. C'est-à-dire qu'ils avaient simplement un collier autour de leur cou parce qu'ils mettaient le rosaire pour la signification chrétienne. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'acculturation du côté chrétien qui allait de pair avec une volonté de marquer la différence par le rosaire autour du cou.
Est-ce que cette démarche d'ouverture vis-à-vis des peuples indigènes a eu là également des effets en ce qui concerne les conversions ?
Probablement. Ce qu'il faut dire, c'est qu'elle a aidé à ce qu'on appellera plus tard la colonisation, elle a aidé à la présence française en Afrique noire. C'est-à-dire que, et c'est comme ça que les Pères Blancs vont se trouver d'ailleurs en difficulté vis-à-vis des protestants ou d'autres religions. C'est-à-dire que, mais enfin, la médiation religieuse a été un des facteurs les plus importants de la colonisation, et le cardinal de la Vigerie ont donné la dimension vraie de la colonisation qui, d'un autre côté, comme vous savez, est plutôt commerciale et mercantile.
Est-ce que c'est une figure d'évêque progressiste avant l'heure ?
C'est une figure d'évêque qui dépasse, je dirais, le cadre qu'on dirait maintenant hexagonal. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voit ce qu'est la dimension universelle de l'Église, en même temps qu'il voit la dimension, je dirais, universelle de la France à travers ce qui va être le colonialisme, qui est maintenant sévèrement reproché, et qui est l'expansion maritime et coloniale. Il conjoint les deux. C'est à la fois un chrétien de son époque, et d'autre part, en même temps, un républicain chrétien, qui à l'époque est quand même assez difficile à conduire.